France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Voici cette semaine une série sur la notion d'engagement. Premier épisode, Jean-Paul Sartre et le fantôme de Paul Nizan. Ils sont nés tous les deux en 1905 et ont intégré tous les deux l'École normale supérieure en 1924. Et là, amis de promo, ils ont connu les questions qui ont traversé toute une génération. Cette génération qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a été témoin à quelques pas d'elle de la montée des fascismes, du nazisme en particulier, et qui a aussi éprouvé la tentation du communisme, puis la perplexité face au pacte germano-soviétique de 1939, où Staline a donné la main à Hitler. S'engager, le faut-il vraiment ? Résister, dénoncer l'immobilisme, s'obliger à sortir de soi-même pour rejoindre d'autres humains de son temps ? Mais jusqu'à quel point ? Sait-on ensuite se dégager quand ce que l'on sert a dévié sa route ? Ces questions vont hanter toute la série que nous vous proposons cette semaine et déjà ce premier épisode.
Je voudrais être tout simplement un homme comme je suis, qui fait son métier, qui est d'écrire et qui en même temps s'engage, parce que le métier, ça ne suffit pas. Exactement, même s'il est bien fait, ça ne suffit pas à borner les vœux d'un homme qui s'engage dans le peuple et qui travaille avec le peuple. Voilà ce que je veux être.
Jean-Paul Sartre, qu'on entend ici dans les dernières années de sa vie en 1973, dans Radioscopie sur France Inter, est devenu au XXe siècle le visage du philosophe engagé. Il a même conceptualisé la notion d'engagement. Pourtant, tout cela lui est venu assez tard. À se demander si ce n'est pas son copain Nizan qui a semé en lui dans les années 1920 et 1930 tous les germes de son exigence d'engagement. Nizan a tout fait avant Sartre. Sartre qui était bien peu engagé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nizan s'est approché du marxisme très tôt, en ayant la nausée devant les intellos normaliens trop enfermés. Il craignait la théorie trop sûre d'elle. Il aimait le journalisme et le roman. Il est entré au Parti communiste. Il l'a quitté aussi en 1939 après le pacte germano-soviétique. Il est mort au combat en 1940, tandis que Sartre était réformé. Nizan est-il le fantôme de Sartre ?
Il n'a jamais été réformé. Pas du tout. C'est faux.
Il n'a pas été réformé, je me suis complètement trompée, c'est vrai qu'il a été
il a fait son service militaire,
il a commencé
précisément dans l'Est de la France,
la météo, etc.
Il est carnet de la drôle de guerre.
J'aime bien me tromper parce que ça permet de remettre les choses à plat. Il n'a pas fait la guerre très longtemps.
Il a fait la guerre, non ? Il a été prisonnier.
Allez-y, Anne, toi,
la douzaine. Non, mais excuse, mais...
Il a été...
Non. Il n'a pas été réformé. C'est vrai qu'il n'avait pas une santé de fer, et donc c'est pourquoi j'ai cru qu'il l'avait été, qu'il avait fait autre chose que le front. Alors allez-y, dites-moi.
Il était à Brumath, à Guebwiller.
Exactement, il faisait. Il y a plein de photos, il était dans les trucs météo.
Voilà,
il a été fait prisonnier au Stalag 12D à Trèves, il s'est enfui. Voilà. Il a créé un groupe de résistance socialiste et liberté.
Bon, alors on va parler de ces choses. Vous m'accorderez qu'il n'était pas aux premières lignes sur le front comme Nizan. Pardon pour mon erreur. Bonjour à Nicole Solal.
Il était mobilisé comme Nizan.
Bonjour.
Nizan
bonjour.
Nizan était interprète.
Je suis ravie qu'il y ait une émission sur Sartre.
Je suis vraiment désolée. Nicole Solal, vous êtes intéressée aussi bien par l'histoire que par la sociologie et la philosophie. Vous êtes aujourd'hui Distinguished Professor à l'Université Bocconi de Milan. Vous avez écrit de nombreux livres, plusieurs sur Sartre, dont vous êtes notamment la talentueuse biographe et aussi en 1980 un livre sur Paul Nizan. Bonjour Adi Risk. Vous êtes professeur honoraire de Cannes, du lycée Henri IV à Paris. Vous avez enseigné la philosophie de longues années. Vous êtes aussi un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Sartre. Vos livres à tous deux sont précisés avec les noms des éditeurs. Il y en a beaucoup, pardon de ne pas tous les citer, sur le site de notre émission. On va reprendre les aspects biographiques de Sartre et Nizan. Je suis allée trop vite. Écoutons pour commencer les mots d'Henriette Nizan.
J'ai fait connaissance en même temps de Nizan, de Sartre et de Raymond Aron. Et ils étaient très copains. Et moi, ils m'ont vraiment adoptée. Ils ont été absolument gentils comme tout. Puis je les intéressais proprement bien parce que j'étais une assez belle fille. Et alors, j'avais pris l'habitude de suivre des cours de la Sorbonne qui ne m'intéressaient pas, mais où je savais que je rencontrerais tous ces jeunes gens. Après quoi, on allait tous prendre le thé à la maison. on bavardait. Sartre se mettait au piano, il jouait très bien du piano, il jouait des tas de choses. Sartre n'était pas joli, mais il avait du charme, il n'y a aucun doute.
Qu'est-ce qui vous a séduit chez Nizan ?
Je ne peux pas le dire, je crois que c'est quand même un très grand charme. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Il avait une voix qui me plaisait beaucoup. Et puis également, il avait une très jolie nuque. Et j'ai toujours été très attirée également par les nuques. Il parlait de tout, il savait tout, il avait tout lu. Il était extrêmement varié. On parlait de tout ensemble. Être amoureux, ça prend tout votre temps. Pour moi, en tout cas, c'est un full-time job. On ne peut rien faire d'autre, c'est un grand microbe qui vous dévore. Et c'était comme ça pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Pour lui, parce qu'il était beaucoup plus intelligent, mais moi, j'étais plus instinctive.
C'était Henriette Nizan, l'épouse donc de Nizan, dans À voix nue sur France Culture en 1990. Je trouve ça merveilleux, la façon dont elle parle tant de Sartre, qui n'était pas joli mais avait du charme, et puis de l'amour de sa vie. Nizan, elle parle de sa voix, de sa nuque. Annie Cohen-Solal, vous avez travaillé sur les deux personnages. Vous avez travaillé avec Henriette Nizan. Mm-hmm. C'est beau, non ?
Alors, c'est... Moi, je tombe avec ces gens dans mon année d'hypocagne avec un prof de philo qui s'appelle Nicolas Grimaldi. Il nous dit, à l'appui d'une dissertation sur la déception, il faut lire la préface de Sartre à Aden Arabi. On est en 1965.
On en lira des extraits ici.
Donc, depuis 1965, je vis avec ces gens. Et j'adore évidemment le texte, la préface de Sartre. Et quand je fais ma maîtrise sur Nizan, je fais ma thèse sur Nizan, et quand je cherche des documents d'archives, je vais voir Henriette. Elle est assise sur un coffre, et elle me dit des choses, et elle dit toujours la même chose. Et je lui dis, Henriette, il faut aller plus loin. Finalement, elle s'est levée de son coffre. Dans le coffre, il y avait des archives extraordinaires sur le début de la revue marxiste, le début du marxisme en France, etc. Extraordinaire. Et quand mon livre est sorti, quand mon livre était prêt, je lui ai dit, mais tu sais, il faut trouver un moyen que tu racontes tes souvenirs. Et elle m'a dit, ok, je vais chez une amie qui habite dans un HLM, donne-moi ton manuscrit. Et pendant un mois, elle a travaillé et elle a écrit à l'intérieur de mon texte, un texte à elle, vachement plus beau que tout ce qu'elle disait mécaniquement aux gens. Et elle a raconté des éléments passionnants, par exemple sur le séjour de Paul Nizan avec elle toute l'année 1934 à Moscou. Et comment il a commencé à douter. Et tout mon travail, c'est Irving Goffman qui m'a dit ça aux États-Unis, que mon travail, c'est un travail sur la sociologie du doute. Nizan devient membre du Parti communiste en 1929. Il écrit Aden Arabi, il écrit Les Chiens de garde, et il démissionne en 1939. Il reste 10 ans permanent du parti, la plume à l'humanité, la plume au soir, correspondant de guerre. Pourquoi démissionne-t-il ? Et ma théorie, c'est qu'une démission d'un parti politique, c'est comme un suicide, comme un divorce. C'est pas le jour où on démissionne que ça commence, le doute. Ça commence avant. Et donc j'ai compris que sa démission, elle a commencé en 1934, pendant son séjour en URSS, et j'ai regardé de manière fine tous les éléments de doute dans ses textes. Et donc, il se trouve que, effectivement, Nizan s'éloignait de la ligne politique du parti, de la ligne dure du parti, et il s'est marginalisé par rapport à la ligne du parti, et il a été marginalisé par Aragon. Autant de choses que Sartre ne savait pas.
Voilà. Parce que Sartre, on y revient, ne vous inquiétez pas. On va y revenir. Voilà. On va faire des parties.
Ça suffit, c'est pas trop long.
Vous êtes formidable. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. À l'irisque. Sartre, dans la deuxième moitié des années 20, et même dans les années 30, n'a pas du tout le même parcours que Nizan. Nizan va assez tôt chercher des cercles marxistes. Il faut d'ailleurs rendre hommage à tous ces gens qui ont donné une impulsion à la théorie marxiste avec beaucoup d'exigences. Henri Lefebvre,
Pulitzer, Norbert
Guterman, qui ont écrit la conscience mystifiée en 1934-35, qui ont fait beaucoup d'autres choses. Tout ça, c'est très étranger à Sartre. Pourquoi ?
Écoutez, il y a un point commun entre les deux, et Sartre s'en est expliqué. C'était, du point de vue de ses étudiants en philosophie, le désir d'aller vers le concret, donc de rompre avec la philosophie idéaliste et de ne pas être, et de résister aux sirènes du bergsonisme qui était dominant. Simplement, il y a une énorme différence entre les deux. Sartre, au début des années 30, fait son apprentissage philosophique d'abord sur la phénoménologie. C'est la phénoménologie qui fait naître le Sartre philosophe et qui le guide aussi...
Donc, Husserl et Heidegger ?
À Husserl et Heidegger, et qui le guide aussi vers le sens de l'existence et partant, à partir d'une réflexion sur l'existence, sur la pensée de l'engagement.
Et quand même, donc, sur l'individu, est-ce que vous pourriez nous dire... Parce qu'on croit souvent, et j'avoue que je le crois, peut-être ai-je tort, que la notion d'engagement, elle arrive quand même assez tard. Elle arrive en particulier au lendemain de la guerre, en 46, dans ses propos, etc. Qu'est-ce que la littérature qui doit pour lui être engagée? C'est 1947. On dit souvent que quand même dans ces années 20 et 30, Sartre, il veut écrire, il écrit sur sa famille, il a envie d'être un auteur de théâtre, il n'est pas très politique. Est-ce que j'exagère?
Pas du tout. Il n'est pas très politique au sens où il n'est pas, pourrait-on dire, politisé. Il l'a reconnu lui-même en 32-33, quand il était en Allemagne, à Berlin, en train d'étudier Husserl le matin et l'après-midi de commencer à écrire La Nausée. Contrairement à Aron, qui l'avait précédé en Allemagne, il n'a pas compris ce qui se passait. Alors que là, il le voit.
Bon, c'est ce que je voulais dire.
En 36, il l'a reconnu lui-même.
Il n'a pas voté. Oui, je sais.
Même s'il était sympathisant du Front Populaire.
Bon, on a le droit de dire ces choses.
En revanche, sur l'engagement, il y a quand même une nuance à apporter. Il commence à réfléchir sur l'engagement déjà dans les années 39-40, ces années qui sont préparatoires à l'être et le néant. Et il y pense à partir de la pensée de l'existence jetée dans le monde et qui doit prendre ses responsabilités. Et il y aura chez Sartre une évolution progressive sur l'engagement et finalement des mutations dans sa théorie de l'engagement.
Et donc il est bluffé d'avoir un ami qui n'a pas besoin de parler du peuple comme on l'entendra plus tard dans le petit son que vous avez entendu de Sartre. Dans ces termes, Nizan est petit-fils d'ouvrier breton. Mm-hmm. Le fils de cet homme ouvrier a eu comme fils, c'est-à-dire le père de Nizan, un ingénieur des chemins de fer. La question sociale, la question de la
trahison
de classe. De classe, merci, est très forte chez Nizan. Et puis Nizan, la question communiste, tout le monde y pense peut-être, mais Nizan, il y va et il en sort. Enfin, il y a quelque chose dans le personnage de Nizan qui est admirable par l'intensité. Cet homme meurt à 35 ans. Il a fait, semble-t-il, tout le chemin que Sartre fera bien plus tard.
Oui. Alors, une des choses
vous êtes d'accord, Annie Cohen-Solaar?
Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que on ne comprend rien à Sartre. Si on ne le voit pas sous la forme d'une approche globale, son œuvre de manière globale, et d'autre part, si on ne comprend pas que sa trajectoire, elle est rigoureusement atypique. Elle est atypique. Atypique par rapport à la France et atypique par rapport à son temps. Sartre, il danse à contre-temps.
Vous trouvez, vous, je trouve qu'il est communiste un peu tard, qu'il sort un peu trop tard.
Il n'a jamais été communiste,
il va pas vers le Parti communiste.
Enfin, il attend 56 quand même.
Il a beaucoup de doutes, de craintes et de tremblements.
Oui, absolument. Non, mais ce qui est très intéressant, mais ce qu'il faut voir, c'est... La mécanique sartrienne du point de vue de Sartre, c'est ça qu'il faut faire. Et Sartre, c'est quelqu'un qui est dans une bulle avant de s'engager. Et il ne s'engage pas en 47, il s'engage en 45 aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'il s'engage? C'est quand il voit la discrimination raciale aux États-Unis. Il fait un voyage aux États-Unis juste après la guerre, sur le conseil de Camus, et là, il écrit des textes extraordinaires, qui sont très peu connus en France, où il dit « dans ce pays, juste fier à juste titre de ses institutions démocratiques, un homme sur trois n'a pas de droit civil. Il y a 13 millions d'intouchables. Bon, c'est un texte magnifique et c'est là qu'il s'engage politiquement. Et c'est en dehors de son monde. Sartre emprunte énormément d'outils à l'extérieur du modèle français. Il emprunte des outils aux Américains très tôt dans la nausée. Il emprunte des outils aux Allemands très tôt en philosophie. Et c'est à l'extérieur de la France, qui devient qui s'engage. Donc ces textes sur le racisme aux États-Unis, ils sont extrêmement violents. Et son engagement avec les temps modernes, c'est après son retour des États-Unis.
Est-ce qu'on a le droit maintenant là de faire le point sur Sartre pendant la Deuxième Guerre mondiale? J'écoute l'historienne, j'écoute le philosophe. On va commencer à dire risque et puis on va voir. Je voudrais mettre ça à plat. Qu'est-ce qui se passe quand, après la déclaration de guerre en septembre 39? Où va Sartre? Que fait-il?
En septembre 39, il est... Alors, parlons-en précisément. Il est mobilisé. Pendant sa période de mobilisation, c'est-à-dire la fameuse drôle de guerre, il a du temps libre. Et comme toujours, Sartre écrit. Il écrit...
Où ça?
Ben, pendant ses...
Il écrit pour lui.
En 39,
quand il écrit les fameux carnets, à l'arrière, lui laisse le temps de faire.
La drôle de guerre. Oui,
c'est ça.
Et dans les carnets de la drôle de guerre, il y a des éléments préparatoires à l'être et le néant, mais il y a aussi des éléments préparatoires à l'engagement. Et deux choses importantes à propos de la guerre. Premier élément, l'engagement se mûrit chez Sartre par la prise de responsabilité qu'on ne peut pas faire abstraction de son époque, de son ancrage social et de la situation politique. Et donc, on doit assumer ses responsabilités et se projeter vers ses possibles à partir de l'époque. C'est ça la première étape de l'engagement sartrien. Ça signifie que je suis responsable de moi dans le monde et je suis responsable de l'homme que je veux produire à partir de mes choix et de mes valeurs. C'est le premier point. Donc, Sartre découvre dans les années 40 une thématique importante, l'une des premières thématiques de l'engagement, qui est celle de l'authenticité. Il faut assumer son temps et avoir une liberté en situation dans son époque. Deuxième aspect...
Il l'écrit, ça.
Il l'écrit.
Oui, oui.
Deuxième aspect, et il le dira après coup, ce qui manquait encore là, c'est finalement, il a découvert l'historicité, mais il n'a pas découvert encore peut-être le social. Il a dit que le social, il l'a découvert dans le camp de prisonniers, quand ils étaient tous ensemble, le sens du collectif. Et par la suite, la question de la responsabilité collective et du réalisme politique va l'emporter après la guerre et va faire qu'il se rapprochera du Parti communiste.
Entendu. Et cette histoire de résistance, je vous écoute, Annie Cohen, cela, que fait Sartre après la mobilisation, simplifié probablement, Sartre après sa mobilisation à l'arrière, vous me l'accorderez, et lui permettant d'écrire beaucoup, va à Paris une fois que c'est la fin de la guerre, et il publie énormément, dont L'être le néant, et Annie Cohen Solal, résistant, pas résistant, résistant tardif, mettons les choses au point.
Géraldine, je salue le fait que vous faites une émission sur Sartre. On parle peu de Sartre en France, trop peu. Moi, j'habite à l'étranger, on en parle infiniment plus qu'en France. Premièrement, je salue ça. Deuxièmement, je voudrais dire que sur Sartre circulent des critiques, et vous en êtes un exemple.
Je fais l'écho.
Vous en êtes un exemple. Un écho des ici. Critiques qui ne sont pas
alors,
fondées.
Alors, demandez, répondez.
Alors moi, quand j'ai fait mon enquête sur Sartre pour mon livre, l'enquête m'a été commandée par un Américain, parce que personne en France ne voulait faire une biographie de Sartre. Déjà, ça aussi, il faut le dire. Et j'ai commencé mon enquête
André
par...
Chiffrine, qu'on salue.
André Chiffrine. J'ai commencé mon enquête par la guerre, d'accord? J'ai interrogé tous les témoins de la guerre, tous les témoins. Et tout ça est dans mon livre, et tout ça est dans le petit que sais-je, où j'ai tout vu, tout raconté. Et là, je raconte que Sartre a créé ce groupe de résistance Socialisme et Liberté. Et puis après, il a fait partie d'un réseau qui s'appelait le réseau Agathe. Mais tout est là-dedans, hein, avec un type qui s'appelait Pierre Camp. Donc c'est très clair.
Et c'est important, la ça, manière... et c'est tôt.
C'est très tôt.
C'est-à-dire
très tôt, c'est dès qu'il sort de son camp de prisonniers. Ce que je veux dire,
donc,
c'est
vous
que
dites dès 40
ans, il est très clair que où la manière dont Sartre se situait est extrêmement clair. Simplement. Il avait une pensée tellement complexe que quand il a produit Les Mouches, qui est en 43, c'est une pièce de théâtre qui utilise évidemment toute la dramaturgie grecque, et c'était extrêmement compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Or, en fait, il voulait parler de l'esprit pétainiste qui régnait en France. Mais qui pouvait comprendre ça si on n'avait pas une grille de connaissance de la tragédie grecque? Donc voilà, donc Sartre, il y a aucune question. Pour moi, il est allé dans le sud de la France pour essayer de convaincre Gide et Malraux d'aller dans un groupe de résistance. Simplement, et ça c'est Jean Toussaint de Santier qui me l'a dit, que voulez-vous que Sartre fasse avec un fusil? Donc il n'a pas été dans la résistance avec un fusil, il a été dans la résistance intellectuelle.
Vous êtes d'accord à dire ici?
Vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
J'irai directement à l'essentiel. Si l'on veut considérer la résistance comme une résistance militaire, effectivement, Sartre n'a pas pratiqué une résistance militaire. Mais je crois qu'il faut souligner que la résistance intellectuelle, avec un engagement concret de ce point de vue-là, ce n'est pas rien. Et Sartre, de ce point de vue-là, fait ni plus, mais pas moins non plus, que quelqu'un comme Camus.
Oui. Vous rigolez ou quoi ?
Camus ne s'est pas engagé militairement plus tard.
Il a un journal lié à un mouvement de résistance.
Oui, alors ce que je voulais dire simplement,
Camus, c'est quand
tout
même
le monde a entendu
pas la même
parler,
chose.
Tout le monde a entendu parler de Daniel Cordier.
Oui.
Daniel Cordier, le secrétaire particulier de Jean Moulin. Il y a eu alias Caracalla, mais il y a eu ensuite un deuxième texte de Cordier à la suite de ses mémoires qui s'appelle La victoire en pleurant. Et il raconte son entrevue avec Sartre. Et ça marche le long de la Seine en 43.
Juste.
En 43.
Juste.
Et un Sartre débordant de projets d'implication dans la résistance, de réunions d'intellectuels, et demandant son aide à, donc à Cordier. Et Cordier de dire qu'il avait été séduit, enthousiasmé par la pièce Les Mouches, à laquelle il avait assisté. Et donc pour Cordier, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que Sartre était du côté d'une résistance morale et intellectuelle. Et de ce point de vue-là, quand on sait ce que représente le totalitarisme en termes de démission intellectuelle des gens, en termes d'une manière de vicier de l'intérieur la pensée
c'est clair
des gens, ce point de vue-là, c'est absolument impeccable.
Géraldine, ça date de 1941, l'engagement de Sartre, à socialisme et liberté, donc c'est très tôt. Il a même fait un projet pour la France de l'après-guerre. Voilà ce qu'il a écrit. « Hitler déporte nos hommes ». C'est un état de fait dont nous ne pouvons nous accommoder. Si nous acceptons le régime de Vichy, nous ne sommes plus des hommes. Aucune compromission n'est possible avec les collaborateurs, car il s'agit dès maintenant de construire une société où la revendication de liberté ne sera pas un vain mot. Ça, c'est dans Sartre, en que sais-je, et dans ma biographie, partout. Donc il faut le lire. Il faut le lire, il ne faut pas colporter des trucs.
Je reste sceptique sur le fait que ce soit comme Camus engagé dans combat, qui n'est vraiment pas du même ordre que les groupes sartriens. Mais d'accord, on va maintenant déminer un autre sujet, qui est sa fameuse phrase, en 1944, « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation ». C'est une phrase de Sartre, elle lui a fait beaucoup de mal, elle est effectivement plus complexe qu'on le croit. Écoutez.
Absolument. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire. On nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort, puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme, plutôt la mort que... Et je ne parle pas ici de cette élite d'entre nous que furent les vrais résistants, mais de tous les Français qui, à toute heure du jour et de la nuit, pendant 4 ans, ont dit non.
9 septembre 1944, Sartre, donc, à Diris, je vous laisse commenter.
C'est une phrase très importante, complexe, mais non ambiguë, mais elle nous permet de saisir de l'intérieur, au fond, la théorie de la liberté de Sartre et surtout la théorie de l'engagement de Sartre. Au fond, beaucoup de gens croient que être libre, c'est disposer d'une certaine faculté qu'on n'utilise pas, qu'on choisit. On choisit de faire ceci, on choisit de faire cela, mais au fond, c'est indifférent quant à ce que l'on est profondément. Ce que Sartre veut montrer, que être libre, c'est être contraint de reprendre à bras le corps la situation dans laquelle on se trouve, la situation dans laquelle on est embarqué. Or, en temps de paix, je peux me promener dans une rue en sifflotant tranquillement. Finalement, ça n'implique rien quant à ma responsabilité quant à ma liberté.
Mais il aurait dit responsabilité.
Vous promenez dans une rue où peut-être, en face, on est en train d'arrêter une famille juive, plus rien n'est indifférent. Mmh. On est impliqué dans tout. Autrement dit, on n'a jamais été aussi libre que parce que nous étions responsables.
Vous reconnaissez que le mot libre n'est pas formidable. Il aurait dit responsabilité, tourment intérieur. Ça aurait été mieux quand même.
Mais libre au sens de sommer de prendre ses responsabilités.
Responsable,
sommer de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut plus... Vous voyez, c'est un peu du style. C'est presque pascalien, ce qu'il dit là. Ça déconne. Dans une situation de guerre, on est embarqué. Quoi que l'on fasse, on est pris dans le jeu. Et donc, on ne peut pas se départir de sa responsabilité. Alors qu'en temps de paix, il est facile, finalement, d'être de mauvaise foi et de jouer
l'impuissant ou l'indifférent. C'est intéressant parce que moi, j'entends déjà dans ce texte qui le précède, réflexion sur la question juive, où il va être le premier. Parce que moi, je veux dire, j'en ai assez d'entendre critiquer Sartre avec des éléments qui ne sont pas fondés. Sartre est le premier qui va dire à ce pays dont on connaît l'attitude pendant la collaboration, on a tous vu le chagrin et la pitié. Sartre a été le premier qui, en 1946, a écrit une réflexion sur la question juive pour déminer qu'est-ce que l'antisémite. Bon, il a osé se lever et demander au pays, qu'est-ce que vous avez fait là? Parce que ce qu'il souhaitait, c'est. En fait, Sartre, je crois que je sais ce que je veux dire. Il a attaqué des tabous de la mémoire collective française. C'était un tabou. Comme aussi la collaboration était un tabou, comme pendant la guerre d'Algérie, la torture était un tabou. Et Sartre, c'est celui qui va dévoiler les tabous. C'est une des raisons de la mémoire collective française. C'est une des raisons pour lesquelles il embarrasse les gens en France. Et ça, j'y crois fortement. Donc ça a été très fort. Ce que Sartre a fait. Il l'a fait aussi dans Orphée Noir, plus tard. Enfin, il a cette position qui est de dire l'intellectuel, c'est celui qui s'intéresse toujours à ce qui ne le regarde pas.
Avec et cette là, phrase magnifique, je vais le citer, dans Qu'est-ce que la littérature 1947 ? Il y en a, et c'est le plus grand nombre, écrit-il, qui fournissent tout un arsenal de ruses au lecteur qui veut dormir tranquille. Je dirais qu'un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi. À dix risques.
Oui, à propos de ce que vient de dire Madame Cohen-Solal sur la
réflexion
sur la question juive, d'accord, je dirais que Sartre surtout rattache la critique de l'antisémite à un fondement philosophique. Oui. C'est-à-dire l'antisémite, c'est celui qui renonce à sa condition d'homme. C'est-à-dire celui qui veut prendre sur son humanité la réalité de la pierre insensible. Et que finalement, il y a toujours cette dimension philosophique chez Sartre, qui est le poids de la liberté et le poids de la responsabilité morale qui implique la liberté.
Alors on va revenir sur les années d'après-guerre qui sont très importantes. Le fait aussi que Sartre était à l'origine de la republication du livre Aden Arabi de Paul Nizan, dont nous allons parler avec une préface de Sartre en 1960, extraordinaire. Mais puisque la jeunesse a été extraordinairement sartrienne au lendemain de la guerre, il y a quelque chose autour de la jeunesse, il me semble qu'on pourrait revenir au fantôme de Paul Nizan, qui finalement a toujours été jeune, tout simplement parce qu'il est mort à 35 ans. Il y a quelque chose là qui hante Sartre. Et par ailleurs, il a toujours été rebelle, on l'entend dans Les Chiens de garde, où il est extrêmement sévère avec la philosophie française, comme Politzer, l'est et le sera encore, avec des Bergson et d'autres, Bergson, etc.
Oui. Avec les mandarins.
Bergson.
Les mandarins.
Et il écrit ce roman en 1938, La Conspiration, que personnellement je trouve annonciateur de Camus, les Justes, très largement aussi. La Conspiration, où il a des phrases sur les Normaliens qui méritent d'être entendues, écoutées, et ensuite, collées à cette lecture, vous entendrez une archive de Nizan au moment où il reçoit le prix Interallié pour ce livre en 1938.
Le surlendemain, Rosenthal vint retrouver ses amis. Toutes ces rencontres ont lieu à l'école normale, rue d'Ulm. c'est un grand édifice carré du temps de Louis-Philippe. Une cour en fait le centre, avec un bassin de ciment où des poissons rouges tournent paresseusement. Entre les fenêtres court pour l'exemple une guirlande de grands hommes. Une froide odeur de soupe conventuelle traîne le long des couloirs vitrés. Du haut des toits, on découvre avec le sentiment d'exaltation et de pouvoir qu'inspirent les altitudes toute la moitié sud de Paris et son horizon voilé, hérissé de dômes, de clochers, de nuages et de cheminées. On était à la fin du mois de juin 1928. Comme ces jeunes gens vivaient dans un pays qui en vaut bien un autre, mais où le président du Conseil expliquait justement alors à la tribune de la Chambre qu'il n'était pas mécontent d'avoir été nommé par les communistes Poincaré-Laguerre et Poincaré-Larour, parce que s'il n'avait pas visité les premières lignes de la guerre avec ses moltières et sa petite casquette de chauffeur, et s'il n'était pas entré sur l'autre rive du Rhin, où en serait la France ? Et comme ils n'étaient pas pressés par la nécessité déprimante de gagner leur pain sur le champ, ils se disaient qu'il fallait changer le monde. Ils ne savaient pas encore comme c'est lourd et mou, le monde. Comme il ressemble peu à un mur qu'on flanque par terre pour en monter un autre beaucoup plus beau, mais plutôt à un amas, sans queue ni tête, de gélatine, à une espèce de grande méduse avec des organes bien cachés.
Je suis naturellement très heureux d'avoir reçu cette couronne littéraire. J'en suis d'autant plus heureux qu'elle vient de journaliste et va à un journaliste. Il me semble que l'union du métier quotidien du journal et du métier de romancier est quelque chose d'essentiel pour ce que doit être le roman de notre temps. On dit toujours qu'il y a une espèce de contradiction entre l'activité éphémère du journaliste et l'activité qui a des ambitions de permanence du romancier. Je crois que c'est exactement le contraire et que si le roman est un moyen de connaissance du monde et de la vie, le romancier est admirablement aidé par les exigences quotidiennes du métier.
Paul Nizan recevant un prix pour son roman La Conspiration 1938, roman dont on a entendu un extrait. Annie Cohen-Solal, c'est merveilleux la façon dont dans La Conspiration, Nizan se moque du sentiment de puissance lié à l'exaltation de l'altitude pour les normaliens, peut-être logés très haut dans l'école, la référence aux poissons paresseux dans la cour de l'école normale supérieure, et puis ensuite cet hymne au journalisme et au roman comme s'il voulait fuir Annie Cohen-Solal, le caractère un peu engoncé de ce que j'appellerais le théoricisme de ses copains.
Alors, premièrement, j'adore cet extrait. Hier, au téléphone, à François Hartog, je l'ai cité, comme il se disait qu'il fallait changer le monde. Je lui ai cité exactement cet extrait, donc je le cite pratiquement trois fois par semaine. J'adore. Bon, et effectivement, l'école normale, j'ai vécu avec cette cour où il y a 40 mecs, 40 portraits d'hommes, hein, et qui est terriblement, à la fois, c'est un temple avec... architecturalement, ça doit ressembler à un couvent, à la fois un couvent et un truc militaire. C'est une architecture mi-religieuse, mi-militaire. Donc, elle est sublime, et en même temps, elle est rigide.
Et en même temps, sa mémoire est aussi honorée précisément par des gens comme Nizan. Il ne faut pas croire qu'on soit uniquement en train de la conspuer ce matin.
Non, mais bien sûr.
D'une certaine façon, Nizan honore la mémoire de l'école normale.
Mais bien sûr. Mais une des choses que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'il a réussi très très tôt à transgresser ce lieu et les contraintes de ce lieu. Il n'était pas seul à critiquer les mandarins. Lévi-Strauss a aussi critiqué les mandarins de philosophie à l'époque. Hein. Et Sartre ne l'a pas fait à ce moment-là. Mais Sartre, il a une autre... Vous avez très très bien dit, et je vous félicite, parce que je vous ai attaqué tout à l'heure, donc je vous félicite.
Vous avez très bien raconté
son histoire sociale. Hein, le fait que son père était un ouvrier, qu'il ait la trahison de classe, etc. Tout à fait juste. Sartre, à l'opposé, c'est un héritier. Donc Sartre, il est le petit-fils d'un professeur, de toute une lignée de protestants alsaciens, défroqués. Hein, le père, il faut lire les mots, le grand-père devait être pasteur, et Sartre a été élevé par son grand-père protestant. Mais Sartre est un héritier subversif. Il était aussi subversif à l'école normale, mais subversif sur le plan sur le plan, disons, pratique. C'est-à-dire qu'il a, il a attaqué Gustave Lanson, le directeur de l'école normale, qui était le grand ponte en matière littéraire à l'époque, comme il attaquera plus tard le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce qu'il avait une formation de protestant. Il a été formé par son grand-père, il a été homeschooled par son grand-père jusqu'à l'âge de 11 ans. Sartre n'est pas allé à l'école. Et quand il va au lycée et qu'il rencontre Nizan, parce qu'il le rencontre à l'école, au lycée, en cinquième, Sartre fait 1000 fautes à sa dictée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas la même éducation. Sartre, il est éduqué en protestant, c'est-à-dire à critiquer le maître. Bon. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc quelque part, c'est des emblèmes de l'école normale, Sartre et Nizan. Effectivement, c'est des produits exceptionnels de l'école normale
comme
supérieure.
Comme dans un autre genre, pardon de revenir à la résistance, mais Cavaillès, quoi.
Quand oui, même. Mais bien sûr, quand même. Bien sûr.
Là, vous en avez un vrai ingrédient. Bien sûr, hein, bien si sûr. Je puis dire. Alors, pardon, je ne peux pas m'empêcher. Adirisk, sur cette. Peut-être sur l'hymne, étonnant d'ailleurs, quand il reçoit le prix pour la conspiration, l'hymne de Paul Nizan au journalisme et au roman, comme si c'était une façon de s'échapper de la théorie trop sèche. Et ça, évidemment, Sartre, il va le connaître aussi. Sartre aussi a un goût pour le journalisme et le roman, mais ça ne se voit pas encore autant.
Oui. Et on peut même dire que Nizan a fait découvrir déjà à Sartre la littérature anglo-américaine, parce qu'il connaissait très bien ses romanciers, il en parlait tout le temps à Sartre. Ça, c'est indéniable. Mais, puisqu'on a parlé d'héritage, etc., je dirais que Sartre, soit dit en passant, a dit que les 4 années qu'il a passées à l'école normale supérieure, c'était 4 années de bonheur. Mm-hmm. Absolument. Et Sartre, il ne faut quand même pas l'oublier, est aussi un héritier, sur le plan philosophique, de Descartes. Oui, c'est vrai. Et ça compte beaucoup dans la formation d'un homme. Et ça compte beaucoup dans la formation d'un homme, parce que du reste, il le montrera quand il écrit Aden Arabi, il veut revaloriser.
Enfin, c'est pas lui qui crée Aden Arabi.
Non, dans la préface. Il va mettre en valeur, à propos de Nizan, la dimension existentielle, son tourment, sa hantise de la mort, sa volonté de venger son père, qui se sentait en permanence héritier.
Là, vous parlez de Sartre.
Oui. Et parlant de Nizan. Oui.
Alors, attendez, mais juste pour Aden Arabi, parce qu'on a des auditeurs qui ne savent pas tout par cœur comme vous. Hein. Donc, Aden Arabi, c'est le fruit d'un voyage au Yémen,
une rupture,
à Aden,
de Nizan. Il a quitté l'école normale.
Il a interrompu ses études.
Voilà. Et il découvre, il faut quand même le dire, la colonisation britannique. Mmh. Et c'est un texte de ce point de vue-là. Enfin, Nizan est précurseur de 1000 choses qui vont arriver.
C'est juste.
Ensuite, bien avant Sartre, il a compris tout cela. Et Aden Arabi est un pamphlet terrible, un peu comme les chiens de garde ont été un pamphlet terrible contre les mandarins. Sartre, alors au début de cet extrait, la première phrase d'Aden Arabi à Nicolas Solal, c'est
Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie.
Ça n'a rien à voir avec les années de bonheur que Sartre a affirmé avoir eu dans sa jeunesse à l'école normale supérieure. C'est un autre monde.
Mais Géraldine, ce qui est extraordinaire chez Sartre, c'est l'auto-ironie. C'est qu'il se fout. Il le dit, j'étais ridicule. Il le dit dans les mots aussi. Il faut aussi lui être gré de ça. Il se moque de lui-même, il le dit. Il le dit, je pensais que c'était Staline lui-même qui parlait quand il lisait les textes de Nizan dans les années 30. Il dit, j'avais rien compris. Et il le dit très, très, de manière très candide et très authentique, n'est-ce pas, non ?
Oui, tout à fait, il le dit. Mais si je peux me le permettre, il veut souligner que Nizan ne s'est pas engagé, pourrait-on dire, en stalinien.
Oui,
il ne s'est pas engagé dans une sorte d'attitude où l'on se démet de son esprit critique pour faire partie finalement d'un groupement qui applique une ligne sans questionnement. Donc Sartre veut montrer cela, finalement, que son ami n'était pas le militant dogmatique.
Il sort en 1939 du Parti communiste, ce n'était pas si facile.
Mais ce que Sartre quand même souligne, c'est qu'il ne partage pas totalement chez Nizan ce goût du causalisme. C'est-à-dire Nizan dit, il faut qu'on travaille sur les causes, il faut qu'on remonte les causes,
il faut qu'on s'insère
dans le jeu des causes. Eh bien, Sartre, jusqu'à la fin de sa vie, dira qu'il faut prendre en acte des conditions prendre acte des déterminismes, mais jamais un déterminisme ne peut se substituer à ce qu'en fait un être humain.
Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, il faut le dire. Pourquoi le texte de Nizan paraît avec une préface de Sartre en 1960.
Oui, pourquoi ?
Parce que le Parti communiste a dit, avec une campagne de calomnie, que Nizan était un traître. Absolument. Si Nizan est mort, c'est qu'il s'est suicidé, c'était un traître. Et Sartre a vengé la mémoire de Nizan en écrivant ce texte. Et en 1960, pour Maspero, texte très long, un peu filandreux, oui, etc., mais très fort.
Très beau.
Eh bien, ce texte, il faut aussi revenir aux généalogies normaliennes. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a eu un succès étonnant en 1960, et l'une des personnes que je salue ici, c'est Régis Debray. Régis Debray, qui était élève à l'école à ce moment-là, il a créé un groupuscule, je crois qu'il était même communiste, qui s'appelait Aden Arabi. Donc, si vous voulez, il faut voir que l'école normale, elle perdure au-delà des critiques que peuvent en faire les archicubes, et par génération en génération. Et voir Sartre qui venge Nizan avec ce texte, revenir dans la bouche de Régis Debray et d'autres, c'est très très intéressant, non ?
Alors, il faut absolument qu'on lise quelques extraits, ou qu'on entende quelques extraits de cette préface de Sartre en 1960, au texte de son ami Paul Nizan de 1931, Nizan est mort en 40, je le rappelle, sur le front. Écoutez plusieurs extraits.
Je lui répétais que nous étions libres. Il ne répondait pas, mais son mince sourire de coin en disait long. D'autres fois, il se disait matérialiste. À peine avions-nous 17 ans. Et c'était moi qui souriais dédaigneusement. Matérialiste, déterministe, il sentait le poids physique de ses chaînes. Je ne voulais pas sentir celui des miennes. Je détestais qu'il fît de la politique parce que je n'avais pas le besoin d'en faire. Communiste, puis valoisien, puis de nouveau communiste, il était facile de le tourner en dérision et je ne m'en privais pas. En fait, ses amples oscillations marquaient son opiniâtreté. Qu'il hésita entre deux termes extrêmes, rien de plus excusable à 18 ans. Ce qui ne variait pas, c'était son extrémisme. Il fallait en tout cas ruiner l'ordre établi. Cet ordre, pour ma part, j'aimais qu'il existât et pouvoir lui jeter ses bombes, mes paroles. Ce vrai besoin de s'unir à des hommes pour soulever ensemble les pierres qui les étouffaient, je voulus n'y voir qu'une extravagance de dandy. Il était communiste comme il portait monocle, par un goût menu de scandaliser. À l'école, il souffrait. Je lui reprochais sa souffrance. Nous allions écrire, nous ferions de beaux livres qui justifieraient notre existence. De quoi se plaignait-il, puisque je ne me plaignais pas ? Au milieu de la seconde année, il déclara brusquement que la littérature l'ennuyait, qu'il serait opérateur de cinéma. Un ami lui donna quelques leçons. Je lui en voulus. En m'expliquant qu'il avait pris les mots en horreur pour en avoir trop lu, trop écrit, et qu'il voulait agir sur les choses, les transformer en silence avec ses mains, il ne fit qu'aggraver son cas. Ce démissionnaire du verbe ne pouvait condamner l'écriture sans porter sentence contre moi. Il ne me vint pas à l'idée que Nizan cherchait, comme on disait alors, à faire son salut, et que les cris écrits ne sauvent pas. Aujourd'hui, je me rappelle sans déplaisir mon apprentissage et je me dis que Nizan, dans le même temps, désapprenait. Comme il dut souffrir. Un parti se quitte malaisément. Il y a cette loi qu'on doit arracher de soi pour la briser. Ces hommes, dont les visages aimés, familiers, deviendront de sales gueules ennemies. Il y a cette foule sombre qui continuera de marcher obstinément et qu'on verra s'éloigner, disparaître. Mon ami était interprète. Il se retrouva seul dans le nord au milieu de soldats anglais. Seul parmi les Anglais, tel qu'il fut au pire moment de sa vie, en Arabie, fuyant sous l'aiguillon du temps, séparé de tous et disant non.
C'est très émouvant, cette préface de Sartre au texte de son ami mort, Paul Nizan. En 1960, notamment, il ne s'épargne pas, Sartre. Il dit qu'il n'a rien compris à sa crise qui était celle de quelqu'un qui trouvait que le théorique ne pouvait pas tout penser. Il souffrait, à l'école il souffrait, écrit Sartre, je lui reprochais sa souffrance. Sartre ne s'épargne pas, il n'était pas très malin ni très généreux quand il était jeune.
Ça,
très empathique, très dans la compréhension de ce qui peut être un tourment de jeune homme dans un itinéraire.
C'est que dans sa ce qu'on appelle dans sa conversion ultérieure dans les années 50-60, Sartre prendra la mesure de ce que l'engagement, tout en restant critique de lui-même, sans chercher une justification dans une quelconque nécessité, doit passer à l'action. Et l'action au milieu d'autres hommes et dans le don réciproque qu'on fait aux autres. Ça, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Et la phrase qu'il écrit fait écho à une autre qu'il va prononcer plus tard face à un enfant qui crève, la nausée ne fait pas le poids. Donc c'est important. Mais je dirais qu'il y a un point qu'il faut quand même souligner à propos de Nizan, c'est que sa rupture, elle est due, bien entendu, au pacte germano-soviétique, quand il explique que à la rigueur, on peut admettre un plan machiavélien des communistes russes, mais on ne peut pas tolérer de faire l'impasse sur le fait que la Russie met la France en première ligne face au nazisme par ce pacte. Donc là, Nizan réagit. Et puis je voudrais quand même souligner un point. Nizan a été écorché vif le 15 septembre 1939 quand il apprend l'une des conséquences du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire le dépeçage de la Pologne. Et ça, pour lui, c'était pour lui, avec tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a écrit déjà, c'est quelque chose d'insoutenable.
Et donc, je vais encore vous énerver, mais Sartre a compris beaucoup de choses sur Staline, en tout cas, dès 1939, et peut-être même avant Adiani Cohen-Solal, quand il est allé en 34 avec sa femme en URSS. Sartre, il va mettre quand même beaucoup de temps, accordez-moi ça, à dix risques. Enfin, il est compagnon de route, au moins jusqu'en 56, il écrit Les communistes et la paix. J'ai tort de dire cela ?
Oui et non. Oui, vous avez raison jusqu'à un certain point, mais je dis jusqu'à un certain point parce que Sartre n'est jamais engagé, corps et âme, d'un point de vue partisan auprès des communistes. Et puis je vous dirais autre chose. Souvent, dans les réponses que donne Sartre, et que l'on peut critiquer, les attendus de la réponse, c'est-à-dire le raisonnement qui l'y conduit, sert parfois d'anticorps à la réponse. Je vous donne un exemple très simple. Dans les années 50, il s'aligne comme compagnon de route après la guerre de Corée auprès des communistes, mais parce qu'il dit que désormais on n'a plus le choix. Il y a deux blocs et il faut choisir. Mais jusqu'à la fin des années 40, avec le Rassemblement démocratique révolutionnaire qui a tenté, bon, qu'il a abandonné, qui a échoué, c'était l'idée qu'il y avait une troisième voie et que cette troisième voie, les États-Unis et la Russie, c'était l'Europe. Donc vous voyez comment parfois les attendus des raisonnements de Sartre peuvent servir de correctif à certaines des réponses qu'il a données. Et en 56, il condamne l'invasion de la Hongrie.
Fantôme de Staline.
Et en 68, il dit, vous l'avez dit, c'est tard, mais en 68, après
c'est
l'invasion de la
dit,
Tchécoslovaquie, oui. Il dit quand même que désormais, les gens qui ne condamnent pas cela sont devenus les équivalents du fascisme.
Voilà, bon, Annie Cohen, c'est très très compliqué. Les relations de Sartre avec le Parti communiste, c'est très très compliqué. J'ai travaillé ça avec Annie Kriegel, qui était ma patronne de thèse, donc j'ai regardé année par année, il est contre, il est pour, il est contre, il est pour. En fait, il y a tout un chapitre là-dedans qui s'appelle Sartre, l'hypostalinien. À mon avis, c'est un hypostalinien. C'est une trajectoire qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, il se met, il va pas vers le Parti communiste en 45, mais il y va, entre 52 et 56 comme compagnon de route. Mais en fait, sa place, c'est à gauche du Parti communiste quand il va avec la gauche prolétarienne plus tard. Donc, pour comprendre Sartre, il faut passer
deux, trois problèmes en rapport à la Chine.
Il faut essayer de comprendre ça du point de vue de Sartre. De manière globale, de manière phénoménologique et de manière génétique. Voilà, c'est ça que je propose. C'est une œuvre extrêmement complexe. Le problème, c'est qu'en France, nous, Sartre, il n'a pas joué le jeu de l'institution. Sartre est un protestant dans un pays de tradition catholique.
Oui,
il a refusé le Nobel, il a refusé le Collège de France, il n'a pas fait de carrière à l'université.
Il nous reste deux minutes. Alors, on est parti de la préface d'Aden Arabi.
Alors, on fait une semaine sur Sartre.
Non, je voudrais que vous me disiez quelques mots sur ce texte magnifique.
Alors, c'est un texte
de Sartre pour son ami Nizan en 1960, que nous venons d'entendre.
Bah, c'est à nouveau un geste de Sartre exceptionnel, parce qu'il il attaque le Parti communiste, il attaque aussi un non-dit, il attaque un tabou. Je veux dire, moi, j'ai interviewé Aragon sur cette manière qu'a eu le Parti communiste d'enterrer Nizan. Il ne suffisait pas qu'il soit mort, il fallait qu'il eût cessé de vivre, dit Sartre. Et donc il le ressuscite. Mais c'est sublime, moi ça me donne des frissons. Et bravo Sartre, enfin je veux dire.
Dernier mot pour
moi,
vous,
Adéris. Je dirais un mot, simplement. Sartre a raconté son enfance de manière très critique, à son propre égard,
dans les mots. C'est merveilleux.
On peut dire que la préface à Aden Arabi, c'est un peu l'équivalent des mots pour sa période de jeunesse, d'étudiant.
C'est peut-être le meilleur de Sartre, voilà. Ça, non ?
Et c'est un texte aussi, je suis d'accord avec vous, critique à l'égard de lui-même.
J'ai perdu un ami, c'est un demi-chagrin. Du moins c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit, du moins. Qui va pleurer sur toi quand tu perds un copain? Qui va pleurer sur toi quand tu perds un copain? Pas perdu les baisers, les amours, les serments. Pas pleurer, pas gueuler, pas appeler maman. La surprise d'abord et puis le cœur tout froid. Pourquoi tu ne veux plus jouer avec moi? Pourquoi tu ne veux plus jouer avec moi? J'ai perdu un ami, c'est un demi-chagrin. Du moins c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit du moins. Qui va pleurer sur toi quand tu perds un copain? Qui va pleurer sur toi quand tu perds un perdu les grands mots mais les petites joies. Pas connu les sanglots pourtant on est à plat. C'est la mauvaise grippe, on a la gueule de bois. Pourquoi tu ne peux plus parler avec moi? Pourquoi tu ne peux plus parler avec moi? J'ai perdu un ami, c'est un demi-chagrin. Du moins c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit du moins. Qui va pleurer sur toi quand tu perds un copain? Qui va pleurer sur toi quand tu perds un copain? Bicos pas le téléphone, bicos grande passion. Bicos trop de travail, divergence d'opinion. Bicos n'importe quoi, on s'est perdu de vue. Quand on perd un ami, c'est parfois beaucoup plus. Quand on perd un ami, c'est parfois beaucoup plus.
J'ai perdu un ami, c'était Marie-Paul Bell en 1980. Merci beaucoup à Annie Cohen-Solal et Adi Risk. Les références de vos travaux sont précisées en détail sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce matin, il se demande pourquoi ne doit-on pas se contredire. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi ne doit-on pas se contredire? L'un des plus grands dangers qui menace le monde de tout temps, pourrait-on dire, mais aujourd'hui en particulier, c'est ce sentiment qu'on peut dire tout et son contraire. Ce sentiment qu'aujourd'hui en particulier, dans des espaces d'expression qui semblent des libertés, c'est la liberté d'expression qui est un principe fondamental de la vie et de la démocratie parmi les êtres humains, et bien justement dans ces espaces de la liberté d'expression, on peut dire tout et n'importe quoi, on peut dire tout et son contraire. Je peux dire une chose et puis aussi dire le contraire. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on me l'interdirait? Pourquoi y aurait-il des interdits? Pourquoi parmi ces interdits y aurait-il aussi l'interdit de se contredire? Pourquoi l'acte de dire, qui est non pas quelque chose de banal, mais quelque chose de si fondamental chez les humains, pourquoi l'acte de dire doit-il être un petit peu régulé? Et pourquoi en particulier n'aurais-je pas le droit de me contredire? N'y a-t-il pas, comme on dit, que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire une chose et son contraire? Eh bien, l'un des premiers fondements, justement, du discours, du dire entre les êtres humains et de la constitution d'un savoir, de ce qu'on appelle la science, la vérité, mais aussi le monde, un monde commun, un monde où l'on a des repères, c'est justement la révélation d'un principe qu'on appelle le principe de non-contradiction depuis la philosophie grecque, depuis les origines de ce qu'on appelle la logique qui consiste à dire les règles du discours, les règles du logos, ce principe qu'Aristote donc appelait le principe de non-contradiction. Oui, en effet, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de dire A et le contraire de A en même temps. Au même moment. C'est vrai pour tous les discours, c'est vrai pour les mathématiques, je ne peux pas dire 2 et 2 égale 4 et 2 et 2 ne font pas 4 au même moment, de la même façon, avec les mêmes principes, mais c'est vrai aussi pour notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne est certes susceptible de changement, le devenir dans ses métamorphoses est ce qui vient apparemment contredire une vérité logique, absolue, universelle. C'est vrai qu'il pleut et il ne pleut pas, mais ça n'est pas vrai qu'il pleut et qu'il ne pleut pas. En même temps, à l'instant T, avec des conditions d'observation bien définies, avec des coordonnées très précises d'espace et de temps, à l'instant T, oui, il n'est pas tout à fait possible de dire qu'il pleut et qu'il ne pleut pas. Bien sûr, il y a des phénomènes qui débordent le principe de non-contradiction résumé par notre perception humaine, objective, naturelle en quelque sorte, avec ses conditions limitées. La mécanique quantique, par exemple, dit qu'on ne peut pas situer tout à fait à un endroit précis une particule, qu'on ne peut pas savoir même si à certains niveaux du monde, au niveau quantique, qui ne sont pas ceux de notre perception d'êtres humains vivant dans un milieu ordonné et à une certaine échelle, oui, l'objet est-il une onde ou un corpuscule? Il est les deux à la fois, il est ici et il est ailleurs en même temps. Mais la science, quand elle dit cela, peut le démontrer. Et elle dit, oui, il est ailleurs et selon certaines considérations, et je peux vous démontrer que le contraire implique contradiction. Ainsi, cette contradiction pour notre perception est une non-contradiction pour la science. Et la non-contradiction reste le principe fondamental du discours. Non, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps, et il faut se dresser contre ceux qui, au nom de la liberté d'expression, disent tout et n'importe quoi pour vous faire avaler ce qu'ils veulent.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.